œuvre racontait l'histoire de la pensée, ou plutôt l'histoire d'un homme et même d'un philosophe, un philosophe grec. Ce philosophe sous le soleil duquel nous passons notre été à penser, à rencontrer sur notre chemin les invités les plus singuliers, les plus surprenants. Platon donc, vous l'avez reconnu. Penser, pour Platon, c'est penser contre soi-même, apprendre à se méfier comme de la peste de ses opinions premières qui nous collent à la peau. L'opinion est du genre du cri, écrit Platon dans le Philèbe. Penser, en effet, c'est arrêter de crier, parvenir à se décoller de son opinion, à envisager le monde avec distance, en étant capable, en effet, de penser contre soi. Voilà le combat de Platon, qui fut bien sûr avant lui, celui de Socrate, son maître. L'ironie socratique, c'était cela aussi, l'apprentissage d'une belle distance, ne pas céder à l'immédiateté gluante de son opinion. L'opinion est du genre du cri, mais quelle belle phrase! Oui, penser est bien une invitation à cesser de crier. Mais que d'obstacles Platon rencontre-t-il sur son chemin? On lui objecte que c'est bon d'avoir son opinion, qu'il faut avoir la fierté de l'assumer, de s'assumer, pourquoi pas. On lui objecte qu'on l'a vu sur Internet, que c'est sûr, plein de gens le disent sur Internet, notre opinion elle est bonne, c'est la vérité. On lui objecte qu'on a des convictions, nous, et même des passions, des certitudes, que tout cela est bien plus excitant que cette prise de distance avec soi. Au fond, on lui objecte depuis des siècles, voire des millénaires, et ça fait un peu long, puisque Platon, comme tous les grands philosophes, ne meurt pas. Il doit assumer sa philosophie pour les siècles des siècles, alors voilà, depuis des siècles, on lui objecte que c'est bon de crier. Alors, il est un peu fatigué, Platon. Il n'en peut plus de toutes ses résistances. Et puis un jour, quelque chose change. À la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, des psychologues, chercheurs en neurosciences, vont faire une découverte qui va être pour Platon d'un grand secours. Nous disposons, à l'avant du cerveau, d'un outil idéal pour apprendre à penser contre soi, le cortex préfrontal. C'est lui qui nous permet de résister à la force de nos préjugés, opinions immédiates, pulsions grégaires, pseudo-certitudes et autres fake news ou emballements complotistes. Cette résistance, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la pensée critique de Platon, les psychologues la nomment inhibition, et même inhibition positive. Apprendre à penser, développer son intelligence, nous demanderait de savoir inhiber toutes ces choses qui viennent tout de suite, émotion première, réaction première, idée première. Il a envie de pleurer de joie, Platon, de les prendre dans ses bras, ses psychologues. Il se sent moins seul désormais. Pour en parler ce matin, de ce que c'est qu'apprendre à penser, de ce besoin d'une inhibition positive pour développer notre cerveau, j'ai la joie de recevoir l'un de ces psychologues. Oui, l'un de ceux que Platon a pris dans ses bras en décidant de l'inviter sous le soleil de son émission, Grégoire Borst, donc, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, Grégoire Borst, donc, qui nous a rejoint ce matin dans la caverne de France Inter pour nous aider à répondre à cette belle question: comment on apprend à penser?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Grégoire Borst.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints en ce cœur, en ce début du mois d'août, pour parler comme ça, de, notamment de votre livre, hein, « Enseigner aux élèves comment apprendre » aux éditions Nathan, dans lequel vous nous montrez, grâce à votre travail de chercheur en psychologie, grâce à votre travail sur les neurosciences, comment on fait pour apprendre au fond. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce concept d'inhibition? En quoi c'est si central pour réussir à bien penser, d'inhiber plein de choses?
L'inhibition, c'est finalement un concept intéressant parce que il permet de rendre compte de nos comportements, de la façon dont on pense, à différents niveaux d'explication. Vous savez que c'est souvent un peu une des difficultés, comment on intègre finalement le fonctionnement du cerveau avec la pensée, l'émergence de la pensée. C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement complexe.
Ouais.
Et que ce principe de l'inhibition, il a ça de, je dirais, d'intéressant, qu'il est vrai au niveau biologique et au niveau de la pensée. Au niveau biologique, on sait que la moitié de nos neurones, ce cerveau, c'est 86 milliards de neurones.
Ouais.
C'est un système extrêmement complexe, et donc on en connaît finalement encore peu de choses. Il y a la moitié des connexions entre les neurones qui sont inhibitrices, qui vont, au lieu de dire à l'information de se propager d'un neurone à un autre, va lui dire stop, tu t'arrêtes là.
C'est incroyable.
Exactement.
Parce que nous, on imagine que ce qui fait qu'on pense bien, c'est que ça va vite, que c'est fluide, que ça passe, mais non, la moitié des conditions de la réussite, de la pensée, c'est que ça s'arrête.
Exactement, c'est qu'à un moment, on puisse aussi mettre un petit signal stop. Et on voit que c'est exactement la même chose dans le domaine de la pensée. On voit bien que dans un certain nombre de contextes, on prend des mauvaises décisions ou pas forcément des décisions optimales, parce qu'on en a besoin finalement de nos automatismes de pensée pour vivre dans le monde d'aujourd'hui. Et on peut pas tout le temps être dans un mode analytique et délibératif pour prendre des décisions. Donc on a aussi besoin de s'en remettre à nos automatismes de pensée, mais on voit bien que dans un certain nombre de cas, ils nous amènent à nous tromper de façon systématique. Et c'est là où rentre en jeu finalement l'inhibition. C'est notre signal stop dans notre cerveau.
Donc l'inhibition, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire je résiste à la chose qui vient, qui peut être une opinion, mais ça peut être aussi une émotion, j'imagine. Ça peut être une idée qui a l'air vraie mais qui est fausse. Et donc comment on apprend ? D'ailleurs, dans votre livre, enseignez aux élèves comment apprendre. Je donne un peu les têtes de chapitre. Hein. Qu'est-ce qu'un neurone ? Qu'est-ce que la plasticité cérébrale ? Pourquoi c'est important d'être attentif pour bien comprendre ? Et vous avez justement apprend à faire avec ton inhibition. Alors comment on fait concrètement pour apprendre à inhiber, pour le dire pour que tout le monde comprenne, pour apprendre à résister à des choses premières qui viennent et qui peut-être sont fausses ?
Bah, finalement, la seule façon dont on peut réellement le faire, c'est d'en avoir conscience. C'est déjà de comprendre qu'effectivement, dans un certain nombre de contextes, et c'est ce que disait très bien Platon, c'est il faut faire le pas de côté, il faut avoir la capacité de s'arrêter et de commencer à engager sa réflexion. Et toute cette question-là, elle repose déjà sur ma capacité à me rendre compte que je suis en train de me tromper. Ouais. Les conditions même du déclenchement de l'inhibition, c'est déjà de se rendre compte que je suis dans une situation où mon automatisme ne fonctionne plus. Et donc ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, c'est d'identifier l'automatisme trompeur. Et puis la troisième étape, c'est d'engager finalement, justement, cette capacité de résistance. Et ça s'entraîne dans plein de situations différentes. Pensez au moment où vous étiez dans la cour de récréation et dans laquelle vous jouiez à 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil, c'est déjà l'inhibition en action. C'est je me retourne et je m'arrête.
Ah oui, c'est vrai.
Et ça, c'est déjà l'inhibition.
Ça, c'est vrai. Et donc, votre collègue, et puis qui dirigeait auparavant le laboratoire de recherche que maintenant vous dirigez, qu'on appelle la PsyD, qui est assez culte dans le monde des chercheurs, qui s'appelle Olivier Houdet, a écrit un livre entier là-dessus, l'inhibition. Et on a presque l'impression que si on y arrive, c'est ça qui va nous sauver. Hein. Ça va nous sauver du complotisme, nous sauver des fake news, nous sauver d'une société de l'expressivité absolue, de nous sauver au fait d'une société désinhibée presque.
Ouais, c'est exactement ça. Et effectivement, on a de plus en plus de données qui suggèrent ça. Alors, les premiers travaux que Olivier Houdet avait menés, ils portaient sur les biais de raisonnement. Et on sait que, effectivement, dans un certain nombre de contextes, on peut raisonner de façon non optimale. Et ce qu'il avait montré dans une très belle étude au début des années 2000, c'est que justement, une intervention pédagogique dans laquelle on faisait prendre conscience aux apprenants, finalement, avant de commencer à leur expliquer la règle logique, le fait qu'ils étaient dans une situation piège, que leurs automatismes venaient court-circuiter leur pensée logique, ça marchait beaucoup mieux.
Alors, prenez un exemple, s'il vous plaît, d'un de ces biais comme ça, qu'il faudrait inhiber pour mieux penser.
Bah on va faire un petit exercice ensemble si vous voulez. Oui. On va vous poser une petite question aux auditeurs. On va leur demander. Bon, imaginez que on a une tablette et un étui, une tablette tactile et un étui, et que tout ça coûte 240 € et que je vous dis que la tablette coûte 200 € de plus que l'étui et que je vous demande combien coûte l'étui.
Aïe aïe aïe, on est le 4 août, il est 9h05 du matin, vous êtes dur avec moi.
Bon, globalement, l'ensemble d'entre nous, la première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est 40.
Ouais.
Parce qu'on se dit, bon, bah, il y a 40, ça coûte 200 € de plus, je fais une soustraction, je devrais trouver la bonne réponse. Ouais. Sauf qu'en fait, dans ce contexte-là, ça marche pas. La bonne réponse, c'est 20 €.
Ouais.
Et on est tous et toutes biaisés dans ce contexte-là.
Ça veut dire qu'il faut pas trop non plus faire confiance à son intuition immédiate.
Alors, c'est intéressant parce que, effectivement, notre intuition immédiate, elle marche dans un certain nombre de contextes. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que nos automatismes de pensée, ils sont extrêmement adaptatifs dans un certain nombre de contextes. Je vais vous prendre un autre exemple qui est, en fait, plus proche de ce qu'on peut observer chez des enfants. Ouais. Quand vous demandez à des enfants de comparer, par exemple, 1,4 et 1,342, quand vous leur demandez en CM1, CM2, ils vont vous dire 1,342, c'est plus grand qu'1,4. Parce que, eux, leur automatisme de pensée, c'est de considérer que plus il y a de chiffres dans un nombre, plus il est grand. Et ça marchait très bien, si vous vous rappelez, sur les nombres entiers. Si vous comparez 100 et 3000, il y a plus de chiffres dans 3000 que dans 100, et c'est une très bonne stratégie dans ce contexte-là. Et on voit bien que ces stratégies approximatives de pensée, elles sont très adaptées pour certains contextes, mais que quand vous les transférez dans d'autres contextes, elles vous amènent à vous tromper de façon systématique.
Mais alors, vous intervenez par exemple dans les écoles pour apprendre ça aux enfants ?
Oui, on essaye effectivement d'une part, via cet ouvrage, effectivement de donner...
Je rappelle son titre, Enseigner aux élèves comment apprendre, bourré de conseils concrets, excellent ouvrage chez Nathan.
Et donc là, l'enjeu, c'est effectivement que les enseignants puissent avoir une méthode, finalement, pour enseigner cela à leurs élèves. Et puis, évidemment, c'est aussi d'aller auprès des élèves pour les familiariser sur ces questions-là. Mais c'est intéressant parce que finalement, on leur parle d'eux-mêmes, un peu comme
et
en philosophie.
Cerveau, et de leur
on
cerveau.
Leur parle de leur cerveau, on leur parle d'eux-mêmes, on leur parle de leur processus de pensée. Et donc, évidemment, ça les intéresse. Et ils ont quand même cette capacité, effectivement, d'être déjà dans une certaine forme de résistance. Parfois, ils le disent très bien. Je renvoie, par exemple, aux engagements de Greta Thunberg ou autres. Elle résiste aussi, et elle résiste aussi cognitivement, finalement, à un certain nombre d'adultes qui lui disent « mais non, le changement climatique, c'est finalement pas très grave », et ainsi de suite.
Mais alors, pour l'instant, on a parlé de l'inhibition par rapport à des réflexes de pensée, ou par rapport à des idées. On imagine que ça peut être très salutaire par rapport à des fake news, par rapport à la question des biais de confirmation. En fait, pourquoi on aime tant une fake news? Pourquoi on s'en défait pas? Parce qu'on a un biais de confirmation implicite de sa première opinion. Mais maintenant, parlons des émotions. Je sais que vous êtes aussi un spécialiste de ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, et que vous dites que parfois, il faut savoir réguler son comportement et se maîtriser pour pouvoir justement mieux réussir scolairement et mieux penser. Est-ce que ça veut dire que l'inhibition s'entend aussi par rapport à des émotions et pas que par rapport à des raisonnements ou des opinions ?
Complètement. L'inhibition, elle est aussi au cœur de notre capacité de régulation émotionnelle, avec bien comprendre que cette régulation émotionnelle, elle s'entend pas en supprimant nos émotions.
Oui.
Toute la régulation émotionnelle et toute la difficulté de la régulation émotionnelle, c'est finalement de ressentir plus fortement les émotions positives et de ressentir un peu moins fortement les émotions négatives. Et effectivement, ce qu'on voit dans le cerveau de l'adolescent, c'est que c'est une période un peu particulière de la vie parce que notre système émotionnel réagit un peu plus fortement à ce qui se passe dans notre environnement, alors que notre cortex préfrontal, siège de nos mécanismes de régulation, n'est pas aussi efficace qu'à l'âge adulte. Et c'est ce qui crée aussi la période de l'adolescence et cette difficulté parfois de régulation. Mais on peut le prendre aussi sur la question, par exemple, de l'empathie. La question de l'empathie, ce qu'elle interroge finalement chez l'adolescent, mais aussi chez l'adulte, c'est notre capacité à se mettre à la place de l'autre.
Alors là, je voudrais être sûr de bien comprendre. Parce qu'on pourrait penser que justement, l'empathie, il faut pas y résister, il faut pas l'inhiber parce que c'est quelque chose qui vient naturellement. Quand on lit Rousseau qui parle d'une empathie naturelle, mais vous avez l'air de dire, je voudrais que vous m'expliquiez, qu'en fait pour être vraiment empathique, il faut inhiber certaines choses. Mais alors quoi ?
Et ce qu'il faut inhiber, c'est son point de vue égocentré sur le monde. Parce que pouvoir comprendre finalement ce qui fait que vous êtes triste ou ce qui fait que vous êtes heureux, c'est ça l'empathie. C'est effectivement se mettre à la place de l'autre et avoir la capacité de comprendre ce qu'il déclenche cette émotion chez l'autre, pour pouvoir ensuite, effectivement, l'accompagner d'une certaine manière.
Oui, d'accord, c'est de l'empathie, plus peut-être que de l'altruisme. C'est-à-dire, pour me mettre à la place de l'autre, je dois inhiber mon obsession du moi.
Exactement.
Inhiber ma position d'ego auto-centré, c'est ça ?
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la condition même de l'empathie, c'est pas le seul processus qui est en jeu, c'est déjà d'avoir cette capacité de se décentrer par rapport à soi-même. Ouais. Et c'est extrêmement complexe parce qu'on passe notre temps à voir le monde par notre propre prisme. On le voit bien d'ailleurs. Vous savez, tout ce qui est passé sur Internet, est-ce que la robe est bleue ou est-ce qu'elle est, elle est grise ? C'est aussi cela, c'est que finalement, toutes nos perceptions ne sont que des représentations du monde par le prisme de l'ensemble de nos connaissances et de l'ensemble de nos biais et de nos opinions. Et donc tout l'enjeu de l'empathie, c'est à un moment de se décentrer de soi-même pour pouvoir prendre la perspective de l'autre.
Mais ce qui est passionnant dans ce que vous dites, c'est qu'à travers ce concept, au début un peu barbare, on n'aime pas trop ce mot, il sonne négativement, l'inhibition, mais grâce à vous, on se met à l'aimer et à l'entendre positivement, une inhibition positive, c'est qu'on comprend que cette attitude de résistance par rapport à ce qui vient en premier, elle est la même par rapport à des idées, des opinions, mais aussi des émotions ou alors un point de vue trop auto-centré sur le monde.
Just a memory and those dreams, as daft as they seem, my love, when you dream them all. flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. Took her left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not.
C'était Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Greg Warborst, qui, j'ai l'impression, se moque un peu de mon accent anglais. Greg Warborst, vous dirigez ce passionnant laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Grâce à vous, on va vraiment se demander comment l'enfant peut mieux apprendre, comment l'adolescent peut mieux apprendre. Vous avez aussi sorti ce livre très très éclairant, Enseigner aux élèves comment apprendre, 50 séances clés en main avec vidéo à l'appui, aux éditions Nathan. Et revenons à cette question de l'empathie. Vous disiez, avant d'écouter ces Arctic Monkeys, que finalement, pour l'empathie, c'est aussi se mettre à la place de l'autre. Comprendre que l'autre souffre en se mettant à sa place. Ou que l'autre est joyeux en se mettant à sa place. Et que cela aussi nous demande d'inhiber, c'est-à-dire de résister à un premier point de vue. Alors on a vu que parfois, pour bien penser, il faut résister à un premier point de vue qui est l'opinion au sens de Platon. On peut aussi résister à un premier point de vue qui est son point de vue autocentré. Mais quand même, beaucoup de parents sont surpris du manque d'empathie de leurs enfants. L'enfant est très autocentré. Alors comment on fait pour développer l'empathie chez l'enfant ?
En fait, on essaye de déconstruire un peu justement ces différents processus qui sont engagés dans l'empathie. La première chose sur laquelle on peut travailler, c'est déjà de l'apprendre à se décentrer dans l'espace. Ah oui ? Déjà lui faire prendre conscience que je peux avoir un point de vue différent de lui quand je suis en face de lui. Et on a justement essayé de travailler avec Nathan sur des activités qu'on peut mettre en place à la maternelle pour apprendre cette décentration.
Dans l'espace, dans la géographie, c'est intéressant.
Dans la géographie, en fait. Donc, ce qu'on demande, c'est que on a sorti un jeu qui s'appelle Flexi Game, dans lequel on demande à l'enfant de reproduire une séquence avec des abacs, c'est-à-dire des petits jetons de couleurs. Des fois, les deux enfants sont côte à côte, et puis parfois, ils sont face à face. Et à partir du moment où on est face à face, effectivement, il faut commencer à se décentrer. Parce que quand je suis en face de vous, ma réponse spontanée, c'est de répondre en miroir. Alors même que si je prends réellement votre perspective, je dois être en mesure, à un moment donné, de me mettre à votre place. Et donc, je dois me décentrer dans l'espace. Et en fait, ça, c'est la première étape de l'empathie. Et on peut commencer là-dessus, et puis progressivement, on va aller vers des degrés d'abstraction un peu plus importantes. Ensuite, lui faire comprendre qu'effectivement, je peux avoir des états mentaux un peu différents des siens. C'est ce qu'on appelle les théories de l'esprit, c'est-à-dire ma capacité finalement d'identifier chez l'autre le fait qu'il puisse avoir des pensées différentes des miennes. Et puis ensuite, on va aller du point de vue sur le versant des émotions.
Et ça marche bien ?
C'est ça marche pas mal. Il y a des choses aussi qui montrent que il y a des données qui montrent que ne serait-ce que de poser des questions quand on lit un texte, par exemple à un enfant quand on lui lit un livre, au lieu de lui poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé dans le texte, quand on pose des questions sur les états mentaux des personnages, leur psychologie, les états émotionnels.
Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il a ressenti?
Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'elle était son intention?
Et si tu étais à sa place?
Exactement. Voilà. C'est une façon de développer ces théories de l'esprit qui sont aussi absolument fondamentales pour notre capacité à être empathique.
À nous développer. Et c'est passionnant ce que vous dites. On comprend bien que votre souci, c'est vraiment le développement de l'enfant, le développement de l'adolescent, et que peut-être il faut arrêter d'être dans une logique de contrôle de connaissance. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte? C'est pas qu'est-ce que tu as retenu, c'est plutôt comment tu aurais vécu la chose si tu étais à cette place. On va écouter Olivier Houdet, que vous connaissez bien. Je trouve ça très joli ce qu'il nous dit sur l'âme des enfants.
S'intéresser au cerveau de l'élève, à l'âme de l'élève aujourd'hui, c'est comme l'a voulu Montessori, qui était quand même médecin, qui disait, mais comment se fait-il qu'on se soit si peu intéressé à l'âme de l'enfant et qu'on ne s'intéresse à l'enfant que quand il est malade, disons, à son âme ou à son cerveau. Et donc, ils avaient tout compris. Piaget, par son constructivisme aussi, même si c'est enfermé dans un modèle de stade qu'on a critiqué tout à l'heure, et que d'ailleurs Montessori déjà critiquait. Elle pressentait toutes les découvertes faites aujourd'hui sur les compétences cognitives précoces des bébés. C'est ça qu'elle voulait dire. L'enfant arrive à l'école déjà avec toute une vie cognitive, sociale, émotionnelle derrière lui. Faut pas tout lui apprendre. Faut au contraire, ce que j'évoquais tout à l'heure, laisser développer ses heuristiques, certains algorithmes cognitifs, comme ses capacités numérique, de dénombrement qu'ont déjà les bébés ou de raisonnement, bien avant le langage. Et l'école doit considérer que l'enfant doit réactiver, surtout apprendre à apprendre, c'est-à-dire à utiliser son cerveau de telle ou telle façon à tel moment. C'est pourquoi il ne faut pas non plus, on parle beaucoup des professeurs, et c'est essentiel, y compris leur formation initiale dans les SP, mais il ne faut pas non plus négliger l'idée qu'on puisse directement intéresser les enfants eux-mêmes à ces découvertes de neurosciences.
Alors Grégoire Borst, c'est votre métier, ça, apprendre à apprendre.
Oui, je pense que c'est quelque chose que l'école ne fait pas encore suffisamment bien. Et surtout, je pense que c'est un enjeu parce que c'est probablement un vrai levier de réduction des inégalités éducatives, c'est-à-dire le fait qu'il puisse y avoir des différences dans les apprentissages du fait du milieu social d'origine des élèves. Et on sent bien que là, à ce moment-là, l'école ne joue pas son rôle, parce que l'école, c'est bien le vecteur de réduction des inégalités sociales, et c'est le seul qu'on est, finalement. Donc, il y a un véritable enjeu, et peut-être que si on repense de façon un peu utopique notre système éducatif, on devrait se dire, mais finalement, avant d'apprendre quoi que ce soit à l'enfant, avant de le faire rentrer dans les apprentissages scolaires fondamentaux, la lecture, les mathématiques, peut-être qu'il faudrait commencer par une première étape où on lui transmet de façon très explicite l'ensemble finalement des compétences pour apprendre. Parce qu'une fois que je suis armé de cela, je peux tout apprendre et je peux finalement...
Ça pourrait redistribuer les cartes sociales sur un mode plus égalitaire.
Oui, c'est ça l'idée, c'est de sortir finalement de cette chimère du système éducatif français qui est la méritocratie. La méritocratie, elle ne peut fonctionner que si nous partons tous avec un pied d'égalité, mais vous rentrez à l'école maternelle avec des enfants quand ils viennent d'un milieu social défavorisé qui ont 500 mots dans leur vocabulaire et quand ils viennent d'un milieu favorisé, 1200. Donc on voit bien que comme...
L'apprentissage de la lecture va être complètement différent.
Bah, exactement, puisque c'est un des prédicteurs de l'apprentissage du langage écrit, c'est bien le nombre de mots que vous avez dans votre vocabulaire avant d'apprendre à lire.
Mais alors sur ce point précis, pour qu'on comprenne cet exemple, il y a cette inégalité sociale. Les enfants de familles aisées ont plus de mots, ils vont donc lire plus facilement. Vous, avec votre méthode, qu'est-ce que vous pouvez proposer de concret pour casser un peu cette logique inégalitaire ?
Ben, l'idée, c'est qu'on peut jouer à deux niveaux. Il y a un niveau qui est comment on développe le vocabulaire de l'enfant, avec effectivement un certain nombre de principes qu'on peut essayer d'identifier dans la littérature scientifique. Et puis, il y a un autre aspect qui est en parallèle de cela, d'essayer d'enseigner de façon extrêmement explicite, même à des enfants de maternelle, parce qu'on peut le faire chez des enfants de maternelle, comment fonctionne leur cerveau, comment ils mémorisent, comment ils vont apprendre à lire, quels sont aussi les enjeux de l'apprentissage de la lecture. Je me rappelle que nous avons tous les deux participé à une conférence sur pourquoi faut-il apprendre à lire au 21e siècle. Je pense que c'est absolument fondamental, le pourquoi des apprentissages. Et on voit bien que cette crise, finalement, qu'on a traversée, c'est aussi ça qu'elle a interrogé chez les enfants.
La crise du Covid.
Oui, c'est finalement, mais pourquoi j'apprends à lire? Pourquoi j'apprends à faire des mathématiques? Pourquoi
mais
j'apprends
ça,
à faire de l'histoire?
C'est une bonne chose, au fond.
Mais je trouve que c'est absolument fondamental.
Vous voulez dire que depuis la crise du Covid, les élèves se posent davantage la question du pourquoi de leurs apprentissages?
Oui, et je trouve qu'ils nous la posent aussi à nous, de façon globale, adultes et communautés éducatives, avec finalement une question qui revient de façon un peu systématique, qui est de dire, mais finalement, vous passez votre temps à déverser dans mon cerveau des connaissances, alors même que toute la connaissance créée dans l'humanité est disponible en 15 millisecondes. Donc pourquoi je dois apprendre ces connaissances? Moi, je pense qu'il faut continuer à apprendre des connaissances, mais je pense qu'il faut avoir une vraie discussion avec les élèves sur le pourquoi de leurs apprentissages.
Venons-en aux différents chapitres de votre livre, Enseigner aux élèves comment apprendre, on en parle. Notamment, vous voulez d'abord expliquer ce que c'est que la plasticité cérébrale. Est-ce que vous pouvez résumer ce point? Parce que j'ai l'impression que tout vient de là.
Oui, tout vient de là. C'est cette idée que, effectivement, notre cerveau a une propriété absolument extraordinaire. C'est qu'il peut, à tous les âges de la vie, se reconfigurer, apprendre à faire travailler des zones du cerveau un peu différemment du fait de cette plasticité cérébrale. Il peut se reconfigurer, il peut créer des nouveaux neurones, il peut créer des nouvelles connexions entre les neurones qui fait que on peut finalement progresser, apprendre à tous les âges de la vie. Et ça, c'est absolument fondamental parce que c'est ce qui sous-tend finalement ce principe d'éducabilité. D'où je viens finalement à peu d'importance puisque je peux apprendre et je peux progresser. Et ça, c'est absolument fondamental de l'expliquer à l'enfant. C'est absolument fondamental de l'expliquer à l'enfant parce que les conceptions que nous partageons tous de l'intelligence et des apprentissages sont des conceptions assez innéistes, finalement. Et d'ailleurs, on l'entend bien quand on parle avec un élève, il va vous dire « Ah ben non, mais moi je suis mauvais en maths parce que de toute façon, toute ma famille était mauvaise en maths, comme s'il y avait une hérétabilité. »
Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens, il n'y a pas d'hérétabilité de l'apprentissage des mathématiques, ouais, puisque c'est un outil culturel.
Et puis surtout, comme il y a une plasticité cérébrale, ça ne renvoie à rien de scientifiquement démontrable.
Exactement. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire comprendre comment fonctionne le cerveau aux élèves, même très jeunes, oui, de leur expliquer que leur cerveau peut se modifier au cours des apprentissages, et que donc, finalement, la conception qu'ils doivent avoir de l'apprentissage, c'est un esprit, un état d'esprit de changement vis-à-vis des apprentissages. À partir du moment où j'investis du temps, de l'effort dans mes apprentissages, je peux progresser.
Mais si on comprend cette expression révolutionnaire qui a tout changé, de plasticité cérébrale, est-ce que, dites-moi si je me trompe, ça veut dire que dans ce cas, quand j'apprends quelque chose, c'est pas une donnée qui rentre dans mon cerveau, c'est une modification de mon cerveau.
Exactement. C'est notre cerveau passe son temps à se modifier, à se reconfigurer pour nous permettre d'acquérir des nouvelles compétences, quelles qu'elles soient. Et c'est aussi peut-être ça un des enjeux, c'est de mieux faire comprendre que les temps d'apprentissage de l'enfant, c'est pas simplement dans la salle de classe. Il apprend en permanence, qu'il soit sur un jeu vidéo, qu'il soit en train de faire une activité extra ou périscolaire. Et peut-être que c'est ça aussi un des véritables enjeux, je dirais, d'une certaine révolution de notre système éducatif, c'est d'arriver à intégrer plus fortement les différents temps d'apprentissage de l'élève et de l'enfant.
Est-ce que vous pensez que l'apprentissage est quand même le privilège de la jeunesse et que, par exemple, après 40 ou 50 ans, notre cerveau est moins plastique, il est quand même trop vieux pour apprendre à jouer d'un instrument nouveau ou se lancer dans de nouvelles études?
Alors, il est vrai que notre cerveau est un peu plus plastique à certaines périodes de la vie. On sait que c'est le cas pour la période de la toute petite enfance, 0-3 ans, d'où l'importance, effectivement, de trouver des environnements qui sont les plus optimaux possibles pour le développement
cognitif. De raconter des histoires, voilà, qu'il n'y ait pas trop d'écran.
Voilà, de raconter des histoires, pas trop d'écran.
Voire pas d'écran du tout, je crois.
Voire pas d'écran du tout, mais ça, c'est un autre débat que je vais ouvrir, mais qui est un peu complexe. Un environnement, je dirais, favorable d'un point de vue émotionnel et cognitif, et c'est aussi ce qui explique les différences qu'on peut observer en termes de milieu social d'origine, parce qu'évidemment, il y a des environnements dans lesquels c'est plus difficile de pouvoir construire un environnement optimal pour le développement de l'enfant. La période de l'adolescence, c'est une autre période de plasticité très forte, mais néanmoins, notre cerveau, indépendamment de ces périodes de sensibilité forte à l'environnement, à tous les âges de la vie, il peut se reconfigurer. Donc on peut toujours apprendre un nouvel instrument à 40 ans ou à 50 ans, on l'apprendra un peu moins vite, parfois un peu moins bien, mais on peut toujours apprendre à n'importe quel âge de la vie.
Grégoire Borst, qu'est-ce qu'un neurone ?
Un neurone,
c'est... Parce que vous avez toujours présupposé qu'on savait ce que c'était. La plasticité cérébrale, la communication entre neurones, inhiber la relation. Très bien, c'est quoi un neurone au fond ?
Un neurone, c'est une petite cellule, donc il en existe de différents types. Et dans le cerveau, il y en a une particulière qui s'appelle le neurone, qui a la particularité d'être formée d'un corps d'une longue fibre nerveuse qu'on appelle un axone et qui est finalement la brique de base de notre cerveau. Et donc, l'activité de ces neurones, de ces grandes populations de neurones, vont permettre l'émergence de la pensée.
D'accord. Dites-moi, dans votre livre, il y a un chapitre sur l'attention aussi. En quoi est-ce que l'attention est absolument décisive pour développer la pensée ?
L'attention, c'est finalement notre projecteur. Donc, c'est ce qui va mettre la focale sur les éléments importants d'une scène visuelle, par exemple, ou d'un texte. C'est quand on lit, il y a aussi cette capacité à focaliser son attention sur les éléments pertinents du texte, de finalement retenir aussi l'ensemble de ces informations qui sont les plus pertinentes. Donc, finalement, c'est notre capacité aussi à rester concentré. Et on sait que la concentration, c'est absolument fondamental pour la compréhension et pour la mémorisation. Donc, l'attention, c'est en fait un préalable. C'est-à-dire que c'est ma disposition, je dirais, psychologique à pouvoir être concentré sur un élément pertinent que j'essaye de traiter.
Je me souviens que j'avais découvert, chez des psychologues comme vous, cette distinction entre l'attention partagée et l'attention focalisée. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais j'ai eu l'impression, et c'était aussi, moi je suis prof de philo au lycée, donc ça m'avait touché, j'avais eu l'impression que l'attention focalisée, c'est qu'on est concentré sur ce que le prof dit. Et donc, on regarde pas par la fenêtre, on regarde pas ses textos en même temps, on rêvasse pas à ses vacances. Mais que l'attention partagée, c'est quand on écoute le prof tout en laissant son esprit vagabonder et tout en regardant un peu ce qui se passe par la fenêtre. Et j'avais cru comprendre que les élèves, paradoxalement, de manière contre-intuitive donc, retenaient davantage ce que le professeur dit quand ils ont une attention partagée et un peu flottante que lorsqu'ils ont une attention focalisée. J'avais bien compris ou alors j'ai pris mes rêves pour une réalité?
Non, pas tout à fait. En fait, effectivement, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même d'être focalisé sur un élément d'une scène particulière. Donc, généralement, dans une classe, ce qu'on essaie de dire aux enseignants, c'est de dire, attention, il faudrait mieux que vous soyez quand même un peu attentif à ce que raconte votre enseignant, parce que si vous êtes là, autant passer votre temps à essayer d'écouter ce qu'on vous dit.
C'est pour ça que vous avez un chapitre marrant. Est-ce que vous pouvez faire deux choses à la fois?
Exactement. En fait, notre cerveau a des ressources attentionnelles relativement limitées, et quand il s'amuse à les distribuer, il peut le faire, il est en capacité de le faire, mais ça a un coût pour l'ensemble des activités dans lesquelles on s'engage. Et on voit bien, quand on est en train de discuter avec quelqu'un sur WhatsApp et qu'en même temps on essaye de suivre ce qui se passe dans une conférence, par exemple, généralement ça se passe pas très bien. C'est-à-dire que ça se passe pas très bien, soit pour la conversation qu'on a sur WhatsApp, soit sur ce qu'on est en train d'écouter de la conférence. Pour autant, c'est vrai que notre cerveau, de façon spontanée, il a tendance à vagabonder. On voit bien que notre esprit, il y a des moments, il est plus focalisé sur la situation. Et donc, tout un enjeu de l'apprentissage de l'attention, c'est ce que disait Maria Montessori, finalement. Ouais. C'était de dire, il faut apprendre aux enfants à rester concentrés. On peut pas considérer...
Mais pas longtemps. Pas trop longtemps.
Pas trop longtemps, mais avec l'idée que l'enjeu, effectivement, c'est de dire que ça, c'est un implicite de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à dire aux enfants, sois attentif, sois concentré. Et que tout l'enjeu, c'est d'être en mesure, à un moment donné, de leur expliquer ce que ça veut dire.
Oui, de leur dire pourquoi. Mais j'ai quand même une objection. Il me semble qu'on a découvert aussi, par exemple, dans les travaux sur la mémoire, quelque chose qui s'appelle la spatialisation de la mémoire épisodique, je vais le dire de façon moins barbare. Ça veut dire qu'on va se souvenir des choses qu'on apprend si, par exemple, on marche dans un champ ou dans une rue et qu'on va associer des différents éléments du cours qu'on apprend à des choses qu'on voit à l'extérieur, qu'on observe. Par exemple, là, il y a ce carrefour, là, il y a cet arbre, là, il y a ce magasin de fringues. Et en fait, je me souviens de ce que j'apprends en associant les étapes à des éléments du paysage. C'est bien quand même qu'il y a une forme d'attention partagée qui va être la condition de la mémorisation.
Tout à fait. L'idée, c'est qu'on va essayer de spatialiser, finalement, sa mémorisation. C'est la méthode des lieux. Hein. C'est une méthode qui existe depuis l'Antiquité.
Cicéron en parlait déjà.
Déjà, exactement. Et qui est une manière, finalement, de pouvoir instancier dans une image mentale réelle ces informations-là. Et effectivement, dans ce contexte-là, on est bien en train de distribuer son attention.
Je peux plus jouer du présent avec discernement.
C'était Éloi, Divorce.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Grégoire Borst. Nous parlons de son dernier livre, Enseigner aux élèves comment apprendre, aux éditions Nathan. Je fais un petit bilan de tous les concepts qu'on a envisagés ensemble depuis le début de l'émission parce qu'ils sont passionnants. D'abord, l'inhibition. Pour apprendre, il faut inhiber des idées premières, des émotions premières. Il ne faut pas se laisser aller, à adhérer à tout ce qui vient. Et ce sera salutaire, notamment par rapport aux fake news ou même à des thèses complotistes sur Internet. On a vu aussi le concept de plasticité cérébrale. Ça nous donne tous les espoirs. Quand on a compris ce concept, on voit qu'il n'y a aucune raison de dire « je suis nul en maths, moi je suis pas fait pour le français », ça n'a aucun sens scientifique. Vous nous avez aussi bien défini le neurone. Et d'ailleurs, je rajoute une idée, c'est que quand vous dites l'inhibition et que ça fait penser à tout ce que la philosophie appelle le sens critique, à tout ce qu'on appelle la distance, et même à cette belle notion en fait de résistance, je résiste à ce qui vient, à ce qui me prend et pourrait m'envahir. On entend aussi cette notion de régulation émotionnelle que vous avez bien précisée. Il s'agit pas d'éliminer les émotions, mais de les réguler et de faire la place belle aux plus belles émotions. Je voudrais préciser une chose avant de vous réinterroger, c'est que on voit aussi dans l'histoire de la science, dans ce qu'on appelle l'épistémologie, et dans les travaux de Gaston Bachelard, notamment dans son livre génial, La formation de l'esprit scientifique, qu'une intelligence scientifique, c'est aussi de résister aux intuitions premières. Gaston Bachelard va même jusqu'à dire qu'on n'établit jamais une vérité si on ne casse pas d'abord l'erreur initiale. La vérité n'est jamais, écrit Gaston Bachelard, qu'une erreur rectifiée. Voilà qui donne du baume au cœur. L'histoire de la science n'est qu'une succession de premières erreurs rectifiées. Méfions-nous, ainsi que vous nous y invitez, Grégoire Borst, de nos premières intuitions, de nos premiers élans. Justement, j'en viens à un autre chapitre de votre livre, qui est un manuel, mais n'ayez pas peur du côté scolaire, c'est un manuel passionnant et presque ludique. Est-ce qu'on apprend de ses erreurs? Vous semblez répondre que oui.
Oui, on apprend en fait globalement que comme ça, c'est la condition même de l'apprentissage. Rappelons-nous quand même que quand on a appris à marcher, on a appris à marcher par essai-erreur. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est de regarder la façon dont progressivement, à mesure que nous rentrons dans des apprentissages plus cognitifs, plus scolaire, à un moment, l'erreur n'est plus finalement une source, je dirais, positive de l'apprentissage.
Enfin, elle devrait.
Mais elle devrait l'être. Et c'est ça qu'on essaye aussi de faire passer comme message aux enseignants. C'est attention, on est dans un système dans lequel on passe notre temps finalement à considérer l'erreur comme quelque chose de négatif, alors même quelle est la condition même de l'apprentissage. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir effectivement comment on utilise l'erreur comme un vecteur et un levier de l'apprentissage de l'élève. Et une façon de pouvoir effectivement considérer ses erreurs, c'est aussi prendre conscience. C'est ça aussi le rôle important de l'inhibition. C'est d'avoir une vision bienveillante des erreurs. On passe notre temps à se tromper, parce que précisément, à des moments, nos automatismes de pensée viennent court-circuiter notre pensée.
Vous voulez dire qu'on comprenne bien, souvent on fait une erreur parce qu'on n'a pas assez d'inhibition.
Exactement, et c'est pas forcément parce qu'on n'a pas la connaissance. Et je dirais, la conception, un peu l'automatisme que nous avons tous, c'est de considérer que quand on se trompe, c'est qu'on ne sait pas. Mais souvent, l'élève sait, il a du mal à exprimer ce savoir, cette compétence, dans une situation où des automatismes interfèrent avec l'expression de cette compétence. Et donc tout l'enjeu, c'est justement d'en revenir à cette résistance et de lui apprendre la résistance plus que continuer à lui réexpliquer la règle indéfiniment.
Et c'est ça, et l'erreur de beaucoup de professeurs, d'enseignants, mais je me mets dans le lot, j'ai sûrement fait cette erreur aussi, c'est que parfois le professeur attend un respect de la consigne, et donc il va interpréter l'erreur uniquement comme un non-respect de la consigne. Alors que parfois, il y a une erreur qui peut être intéressante, qui peut être singulière, qui peut augurer d'une certaine lumière. Et donc finalement, il faudrait changer de regard sur l'erreur.
Il faut changer de regard sur l'erreur, il faut avoir une vision très bienveillante quand même de l'erreur de l'élève, en n'ayant pas cette préconception ou se présupposer que ça veut dire forcément qu'il ne comprend pas ou qu'il ne connaît pas, et qu'un certain nombre de fois, il connaît. La difficulté, c'est justement de comment l'amener à exprimer cette connaissance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de comprendre que l'erreur est aussi une condition de l'apprentissage parce que ça déclenche chez nous des émotions et qu'on a besoin de l'erreur, finalement, comme vecteur d'une émotion. Quand je fais une erreur, j'ai une émotion associée. Et c'est bien parce que je suis en mesure d'aller rechercher en moi-même l'émotion que j'ai ressentie au moment où j'ai fait une erreur, que je change de stratégie. Sinon, je ne changerai jamais de stratégie. Donc, on voit bien quelle est la condition
encore
même de l'apprentissage.
Encore faut-il reconnaître l'erreur, qu'il n'y ait pas de déni.
Exactement. D'où cette notion extrêmement importante dans l'apprentissage, que ce soit dans le milieu scolaire ou en dehors du milieu scolaire, c'est d'exposer l'élève aux erreurs.
Au risque, bien sûr.
Le risque de l'exposer à son erreur. Et il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut exposer à l'erreur et il faut très rapidement pouvoir faire un retour sur l'erreur de l'élève ou de l'enfant. Et ça, c'est souvent une des difficultés qu'on a. C'est que souvent.
On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. Et donc, il faut trouver une modalité, effectivement.
Et puis, l'instituteur, il a 30 élèves, le prof, il a 30
évidemment,
élèves.
Évidemment.
Alors, ce que vous dites est absolument passionnant, et ça me rappelle quelque chose, je vais essayer de vous le dire avec mes mots, mais moi, je suis pas spécialiste en neurosciences, mais j'avais lu, alors que moi-même, je travaille sur cette question, puisque j'ai écrit Les vertus de l'échec, donc ça m'intéresse beaucoup, mais je ne suis pas spécialiste. Et j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas vous, mais qui vous ressemblait, et qui m'a dit, mais en fait, tu sais, on a découvert que dans le cerveau, au moment où on fait une erreur, le cerveau la voit avant qu'elle ait lieu. Mais on n'a pas le temps de ne pas la faire. Et que se passe-t-il ? Alors je le dis avec mes mots. Entre ce moment où le cerveau a prédit l'erreur et le moment où l'erreur arrive, c'est là où le cerveau est le plus créatif, le plus foisonnant. Comme si finalement, on ne pouvait pas devenir intelligent sans se tromper.
C'est exactement ça. Et effectivement, il y a cette notion que notre cerveau détecte implicitement nos erreurs. Et donc tout l'enjeu, et c'est ce qu'on disait au début de cet entretien, c'était de dire, finalement, un des enjeux, c'est de reconnecter l'élève avec justement ce ressenti, cette détection implicite de l'erreur. C'est-à-dire que si on arrive à faire ça, c'est déjà un chemin vers l'apprentissage et vers la correction de l'erreur. C'est pas forcément lui réexpliquer la règle, parce que quand vous réexpliquez la règle, malheureusement, ça n'aura pas d'effet sur cet aspect-là. Et donc il y a véritablement un enjeu de construction d'autoréflexivité par rapport à l'erreur, et de dire... ressent quand même. Et quand je vous ai fait le petit problème de raisonnement tout à l'heure,
c'est marrant,
les gens disent 40, mais en fait, quand on a le temps de leur poser une question, ils sentent bien qu'ils sont en train de donner une réponse erronée.
Fait,
Et mais donc c'est là, effectivement, où il y a un dispositif didactique intéressant et pédagogique intéressant. Parce que à ce moment-là, on est effectivement très disposé à pouvoir changer de stratégie.
On va le dire clairement, hein, pour nos auditeurs, vous allez me dire encore une fois si j'ai raison, mais quelqu'un qui ne ferait jamais d'erreur ne serait pas intelligent.
Non, je pense que effectivement la condition même de l'intelligence, pour ce que ça vaut, et je pense que si on se posait la question de qu'est-ce que l'intelligence, on en trouverait des définitions très vastes, c'est effectivement l'enjeu de faire des erreurs, mais d'être en mesure d'apprendre de ces erreurs. Et je crois que c'est ça la véritable forme d'intelligence, c'est évidemment de se tromper, mais d'avoir la capacité d'apprendre de ces erreurs.
Mais dans ce cas-là, peut-être que les professeurs, les enseignants, institutrices devraient... distinguer des erreurs qui sont plus intéressantes que d'autres, non ? Il y a peut-être des erreurs qu'on fait et qui sont annonciatrices de beaucoup de choses, et d'autres erreurs qui sont moins intéressantes, non ?
Complètement, oui. Il y a des erreurs qui relèvent de la faute d'inattention.
Ouais. Bon, j'irais que... ou justement de l'enfermement idéologique, par exemple.
Ou de l'enfermement idéologique. Et puis, il y a des erreurs qui sont effectivement beaucoup plus consubstantielles, je dirais, de la situation d'apprentissage en elle-même, et qui sont des leviers, finalement, pour amener l'élève à se dépasser et à développer ses compétences.
Quand on vous entend parler, on sent votre passion. D'ailleurs, je rappelle que vous dirigez le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS, un laboratoire très prestigieux et qui est très réputé et que beaucoup de gens qui s'intéressent au développement de l'enfant sont passionnés par vos travaux. Mais on sent le plaisir quand vous en parlez. Est-ce que c'est pas aussi important le plaisir pour développer l'intelligence ?
C'est absolument fondamental. Je crois que quand on parlait du pourquoi des apprentissages, c'est aussi une façon de réintroduire du plaisir dans la situation d'apprentissage. Et il faut quand même voir que quand on observe un jeune enfant, le plaisir qu'il a à acquérir des nouvelles compétences, c'est absolument, je dirais, c'est d'une fraîcheur intellectuelle extrême. Et on a quand même l'impression qu'à un moment, ça se perd. Parce que je pense que à ce moment-là, on joue pas forcément sur les bons leviers de ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. C'est le plaisir que j'ai d'apprendre, finalement, pas pour avoir une bonne note, pas pour passer dans la classe supérieure, mais simplement parce que j'ai le plaisir de maîtriser quelque chose de nouveau. Et je crois que ça passe aussi par finalement, un apprentissage. Il faut apprendre aux élèves à prendre du plaisir dans leurs apprentissages.
La motivation intrinsèque, c'est ça. C'est le plaisir que j'ai à me développer au contact du savoir. Ça rappelle peut-être un peu ce que Spinoza appelait la joie. Hein, la joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. Quand je m'accrois, quand je grandis, quand je comprends mieux, quand je ressens mieux, ça me met en joie. Ça, c'est la motivation intrinsèque. Et vous avez fait une distinction implicite avec la motivation extrinsèque. C'est pour avoir une bonne note, pour avoir un bon métier, pour que mes parents me félicitent. Et en fait, la motivation qui marche le mieux, c'est l'intrinsèque.
Exactement. Il y a des données qui montrent que ça peut marcher un peu la motivation extrinsèque au début de l'apprentissage, mais plus vous jouez sur la motivation extrinsèque, et c'est globalement ce qu'on fait dans notre école, puisqu'on
Bien
donne
sûr.
Des notes et qu'en fait on travaille essentiellement pour avoir des bonnes notes, plus vous allez diminuer la motivation intrinsèque. Donc il y a une espèce
c'est terrible.
C'est terrible parce qu'en fait on tue presque le plaisir d'apprendre de l'enfant progressivement en ne jouant que sur des leviers de motivation intrinsèque, extrinsèque. Donc un véritable enjeu, c'est peut-être aussi de repenser la façon dont on fait un retour justement sur les apprentissages de l'enfant, en passant à un retour qui relève finalement d'une comparaison par rapport à lui-même. Si je me compare que par rapport à moi-même, je vais jouer sur ma motivation intrinsèque. Et je rappelle quand même qu'ils sont persévérants quand ils veulent. Quand on regarde le temps qu'ils passent sur un jeu vidéo pour passer au niveau suivant, ils ont donc bien des compétences et des capacités à rester finalement engagés dans une activité.
Parmi vos travaux, d'ailleurs, vous montrez que les jeux vidéo d'action ont un impact plutôt positif sur les capacités cognitives et notamment sur l'attention visuelle. Donc on voit que vous n'êtes pas un vieux réac au fond de son labo. Juste, je reviens sur ce que c'est passionnant, la motivation intrinsèque. Moi, ça vient de moi, ça me fait plaisir, ça me donne de la joie. Et la motivation extrinsèque, c'est pour avoir une bonne note, pour être bien vu, ou pour avoir ma place dans la société. Est-ce qu'on pourrait pas casser l'opposition et dire qu'on n'a qu'à noter le plaisir pris? Ou alors, est-ce qu'on peut pas sortir de l'opposition?
Si, si, je pense qu'on peut sortir l'opposition, que l'un n'empêche pas l'autre, mais encore une fois, je crois que fondamentalement, si on arrêtait la comparaison sociale dans la classe, c'est-à-dire les élèves qui passent leur temps
le
à regarder
bien sûr,
le classement, finalement, est-ce que sa moyenne est meilleure que l'autre, et que on le prenait par rapport à la courbe d'apprentissage de chacun des élèves, en gardant en tête quand même cette notion extrêmement importante, c'est que finalement, la courbe d'apprentissage, elle est hétérogène, elle est différente d'un individu à un autre. Ça veut rien dire sur son intelligence, ça veut juste dire que, en fonction des domaines, en fonction des contextes, on apprend à des rythmes différents. Mais tout l'enjeu de l'apprentissage et de l'éducation, c'est d'amener tout le monde à un moment à acquérir les mêmes compétences. Donc finalement, on s'en fout de se comparer par rapport à l'autre. Le véritable enjeu, c'est de se comparer par rapport à soi-même.
C'est-à-dire, est-ce que j'ai progressé par rapport à hier? Est-ce que j'ai pris plus de plaisir, etc.
Exactement.
On sent que vous avez du cœur à l'ouvrage pour essayer de réduire les inégalités sociales, notamment en commençant dès la maternelle. Et vous avez une partie de votre travail, c'est de développer ce que vous appelez des compétences socio-émotionnelles pour réduire les inégalités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point ?
Les compétences socio-émotionnelles, c'est finalement l'ensemble de ces compétences transversales qui sont pas spécifiques à la lecture ou aux mathématiques, mais qui relèvent finalement d'un ensemble de compétences très vastes. Alors c'est la communication, c'est l'altruisme, c'est l'empathie, on en parlait tout à l'heure, c'est ma capacité aussi de maîtrise de mes comportements, donc la résistance cognitive, résistance comportementale, régulation émotionnelle, tout ça fait partir des compétences socio-émotionnelles. Et la préconception dans notre école, c'est que tout le monde part avec à peu près les mêmes compétences socio-émotionnelles et que finalement, ensuite, l'enjeu c'est plutôt de leur transmettre des connaissances et tout va bien se passer. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Donc le véritable enjeu, c'est de se dire comment on arrive aussi à développer ce type de compétences, parce que je rappelle que la véritable enjeu d'un système éducatif, c'est de pouvoir être un être accompli au moment où on sort de ce système éducatif. Donc on s'en fout un peu de savoir si vous réussissez à l'école. Le véritable enjeu, c'est est-ce que vous réussissez une fois que vous êtes sorti de l'école. Et on sait qu'effectivement, ce qui est le plus déterminant pour votre réussite éducative, ça veut dire aussi votre santé physique, votre santé mentale, votre bien-être, c'est ces compétences socio-émotionnelles. Donc ce qu'on dit, c'est voilà ce sur quoi il faut travailler finalement. C'est peut-être ça le véritable enjeu de l'école.
C'est en tout cas assez révolutionnaire de le voir comme ça. Mais si on insiste sur cette question des inégalités sociales, pourquoi est-ce que la capacité à réguler son comportement, à se maîtriser au fond, et à faire de la place au savoir, elle serait inégalement répartie? Vous voulez dire que dans les milieux plus simples, on y arrive moins?
Ça veut dire simplement qu'effectivement, le fait que quand vous vivez dans un milieu social moins favorisé, vous avez des effets déjà sur la façon dont votre cerveau se développe. On sait que dès 4 mois après la naissance, vous allez avoir une différenciation dans la façon dont le cerveau va se développer. C'est pas un déterminisme biologique, il y a de la plasticité, donc on peut toujours compenser. Et donc le véritable enjeu, c'est de dire comment on compense des environnements non optimaux au début de la vie, avec cette idée que ce qui crée l'inégalité, c'est les implicites. Et notre école, elle est bourrée d'implicites.
Et vous voulez les expliciter, la table.
Je veux qu'on mette sur la table et qu'on explicite tous les implicites des apprentissages. Donc ça veut dire rentrer dans le cerveau de l'enfant et lui expliquer d'une certaine manière comment marchent les mécanismes de l'apprentissage. Une fois que vous avez fait ça, vous avez armé tout à chacun pour apprendre. Et effectivement, là, on a une véritable, éducabilité possible dans ce contexte-là.
Comment vous accueillez les enfants, notamment de maternelle, quand vous arrivez et que vous leur dites « je vais t'expliquer ce que c'est que ton cerveau
». En fait, ils m'accueillent très bien parce que, d'une part, ils sont d'une curiosité incroyable, que quand vous parlez du cerveau à un enfant, vous lui parlez de lui-même, qu'il acquiert une compréhension de la façon dont il pense, de la façon dont ses émotions se développent, et que c'est aussi quelque chose d'absolument fabuleux, parce qu'il y a aussi une espèce de mise en abîme incroyable. Je leur parle de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte crânienne qu'ils ne verront quasiment jamais, sauf s'ils viennent faire une IRM au laboratoire. Et donc il y a aussi, je dirais, une expérience pratiquement épistémologique de ce point de vue-là. Tout d'un coup, voir sa matière pensante, quand vous venez faire une IRM, C'est absolument incroyable.
Merci beaucoup Grégoire Borst. Je vais réussir à prononcer votre nom correctement au bout de la cinquième fois. C'est magnifique, c'est merveilleux de voir ce cerveau de l'enfant qui s'ouvre, qui se développe et qui arrête de céder comme ça à tout ce qui vient premièrement. Pour vous remercier de nous avoir rejoints sous le soleil de Platon ce matin, je vais essayer de dégager pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été la vôtre ce matin. Eh bien, d'abord, c'est plutôt une psychologie qu'une philosophie. Vous dirigez ce laboratoire de psychologie de développement de l'enfant. Une philosophie, j'aurais envie de dire évidemment socratique, puisque Socrate, comme tout ce que vous proposez, nous demandait déjà de résister, d'inhiber comme ça les idées premières. Une philosophie aussi spinoziste, au sens où Spinoza dit comme vous que le plaisir c'est important pour comprendre, et peut-être même que l'indice du fait que nous comprenons vraiment, c'est précisément ce plaisir, cette joie que nous prenons à nous développer. Grégoire Borst, merci. Tout ce que vous nous avez dit ce matin nous donne envie comme ça de nous développer, de comprendre que la plasticité cérébrale permet ce développement pour les uns comme pour les autres, et enfin de lutter contre les inégalités sociales. Merci beaucoup Grégoire Borst. Cette émission a été préparée par Vera Louderide et Fabrice Rivaud, réalisée par Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, à la technique Clément Vuillet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h précisément sous le soleil de Platon.